Chapitre 3. Mardi 17 octobre. Anne réalise combien elle apprécie son travail à la boulangerie. Outre qu'il lui donne les moyens matériels de vivre et de vivre librement selon sa guise, il lui impose un rythme de vie et lui permet d'être utile aux autres. C'est de bonne humeur qu'elle rentre chez elle en début d'après-midi. Elle a presque oublié son échec de l'avant-veille. En entrant, elle ramasse le courrier que la concierge a glissé sous sa porte. Il n'y a que deux lettres. Une première enveloppe de style typiquement administratif, émanant d'EDF, réclame le règlement rapide et impératif des kilowattheures consommées. La deuxième éveille sa curiosité. L'adresse y est écrite à la main, une écriture qu'elle ne connaît pas, mais ce qui la surprend, c'est l'absence de son nom de famille. Mademoiselle Anne, 5e étage droite, 24 bis rue des Vignes, 75016, Paris. Le numéro de l'étage bien mentionné est aussi curieux, car assez rare sur le courrier. Elle se dépêche de déchirer l'enveloppe et de lire la lettre manuscrite qu'elle contient. Chère mademoiselle Anne, je viens vous demander humblement pardon pour ma réaction aussi odieuse qu'injuste lorsque nous nous sommes rencontrés dimanche après-midi, métro Charles Michel. Ma conduite est impardonnable et pourtant, je sortais d'un interrogatoire serré et j'en voulais à la terre entière. Vous me feriez le plus grand plaisir en acceptant mes excuses et en faisant votre possible pour me pardonner. Il est vrai que j'ai besoin d'aide. Même une aide morale me ferait le plus grand bien. Si, malgré mon inqualifiable conduite, vous êtes toujours prête à recevoir mes confidences, j'en serai très heureux. Je vous donne rendez-vous demain soir, mardi, au Lutèce, un café de Passy, rue de Boulainvilliers. Je vous y attendrai de 19 à 20 heures. Si vous ne venez pas, je comprendrai. J.B. qui voudrait vous avoir comme ami. De surprise, Anne se laisse tomber sur son fauteuil, puis reprend depuis le début la lecture de cette incroyable lettre. Vraiment, elle s'attendait à tout, sauf à un tel repentir. Ainsi, il reconnaît que sa réaction était ignoble et qu'elle a pu me choquer. C'est un bon point pour lui. Anne est prête à tout pardonner et à foncer au rendez-vous de Jean-Baptiste, mais une fois le premier élan passé, elle réfléchit. Elle se demande si cette volte-face ne cache pas quelque chose de louche. Oui, il réalise tout à coup qu'il a besoin de moi. Mais pourquoi faire? Est-ce seulement pour un soutien moral, comme il l'écrit? A-t-il imaginé un plan de défense dans lequel il me réserve un rôle particulier? Qu'espère-t-il me voir faire? A-t-il besoin d'un témoignage, voire d'un faux témoignage? Tout de même, elle décide d'aller au rendez-vous, mais de faire attention à ne pas promettre n'importe quoi, ni se compromettre dans n'importe quelle histoire tordue. Il lui vient même à l'idée de faire un peu de toilette, de revoir sa coiffure, de passer un joli pull. Puis elle se reprend. « N'importe quoi, ma pauvre Anne! J'y vais pour l'écouter, pour lui proposer de l'aide, pas pour le draguer. » Quand elle entre au Lutèce vers 19h30, elle se sent un peu fébrile. Elle n'a pas l'habitude de fréquenter les cafés, encore moins d'y rencontrer des garçons. Une fois la porte franchie, elle est surprise par cette odeur particulière que crée le mélange bière et fumée de cigarettes. Des yeux, elle fait le tour de la salle, assez grande. Jean-Baptiste est bien là, attablé au fond, dans l'angle le plus discret. Il lui adresse un petit signe de la main. Anne s'avance. « Bonjour. » « Bonjour, merci d'être venu. Je commençais à me demander si vous viendriez. » Anne observe Jean-Baptiste. Il a toujours son sourire craquant, mais elle le trouve pâle et abattu, un peu comme s'il sortait d'une longue hospitalisation. Il y a tout de même une petite étincelle qui brille dans son regard. Anne se dit que c'est une lueur d'espoir qui brille ainsi. Il a confiance en elle, elle ne doit pas le décevoir. « Je vous ai proposé de l'aide. Je ne sais pas bien ce que je pourrais faire pour vous, mais la première chose, c'est que vous m'expliquiez la situation. D'abord, je voulais vous redire que je suis désolée pour la façon dont je vous ai répondu dimanche. C'est oublié, n'en parlons plus. Je comprends bien que vous vivez des moments pas faciles. Mais je me demandais, L'enterrement de votre grand-père a déjà eu lieu ?
Oui, il a été incinéré hier.
Oh, pardon, c'est juste que j'aurais voulu y assister.
C'est gentil. Peut-être pourrions-nous nous tutoyer, ce serait plus simple.
D'accord.
Tu bois quelque chose ?
Un thé.
S'il vous plaît, un thé et un autre café.
Tu vas voir, mon histoire est toute simple et pourtant je ne sais pas comment m'en sortir. Pour la police, il est évident que c'est moi le coupable, car toutes les circonstances sont contre moi. J'hérite de mon grand-père et je n'ai pas d'alibi. Je vais t'expliquer. J'ai 26 ans et j'ai fait mon tour de France chez les Compagnons comme ébéniste. Je travaille actuellement chez un patron dans le 6e. Mais je cherche à me mettre à mon compte pour faire de la restauration de meubles anciens. Pour m'installer, j'ai besoin d'argent. Il faut trouver un local, une camionnette, acheter du matériel, des machines. J'ai bien un peu d'argent de côté, mais c'est loin d'être suffisant. Mon grand-père m'avait promis de m'aider. Du temps où il travaillait, il avait une petite entreprise de menuiserie en province, alors cela lui plaisait bien que je veuille m'installer dans la partie. Ce grand-père, que j'aimais beaucoup, était le père de mon père. Mais je n'ai pas connu mon père. Il est mort dans un accident de voiture, j'avais 2 ans. N'ayant ni frère ni sœur, je vis toujours avec ma mère. Elle travaille comme secrétaire, nous nous en sortons comme ça. La police sait que j'ai besoin d'argent, j'ai été voir plusieurs banques pour obtenir un prêt, sans résultat d'ailleurs. Or, mon grand-père avait de l'argent, surtout qu'il ne dépensait pas grand-chose. En plus, il avait fait de moi son héritier. La police sait aussi que j'avais une clé de l'appartement que grand-père m'avait donnée. Comme il avait le cœur malade, il avait toujours peur d'être emmené d'urgence à l'hôpital. Avec cette clé, j'aurais pu lui apporter ses affaires, relever son courrier, arroser ses plantes. Curieusement, l'assassin, en partant, a refermé la porte à clé derrière lui, et ce n'était pas avec la clé de grand-père, puisqu'on l'a retrouvée derrière lui. S'il existe une troisième clé, personne ne sait où elle peut être. Pour tout arranger, je suis allée rendre visite à grand-père le dimanche après-midi, juste avant le crime. Et ta concierge m'a vu monter. Sans doute ai-je croisé l'assassin dans la rue et peut-être aurais-je pu le croiser dans l'escalier. Et la police est persuadée que c'est toi le meurtrier de ton grand-père ?
La police n'a pas de preuves, elle en cherche. Mais elle a de fortes présomptions contre moi. Je suis sa seule piste. Elle n'a rien d'autre, alors elle s'acharne sur moi. C'est épouvantable. Je vis un vrai cauchemar. Je ne vois pas bien ce que tu peux faire pour moi, mais ça me fait du bien de raconter tout ça, de parler à quelqu'un qui se dit mon ami.
Anne ne sait pas trop quoi répondre. Elle n'a évidemment pas le début d'une idée pour aider Jean-Baptiste à sortir du piège dans lequel il se débat. Il y a quelques minutes de silence. Chacun réfléchit. C'est Jean-Baptiste qui reprend.
Et si nous parlions un peu de toi ? Je ne sais rien de toi, à peine ton adresse, mais pas ton nom de famille.
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. Je m'appelle Anne Renaud, j'ai 20 ans. J'ai grandi chez mes parents à Morlaix. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Un de mes oncles, un frère de mon père, boulanger à Paris, cherchait une vendeuse pour remplacer celle qui venait de partir à la retraite. J'ai dit oui, et depuis 2 ans, je travaille comme vendeuse dans une petite boulangerie rue de l'Annonciation. Pendant quelques mois, j'ai vécu chez mon oncle et ma tante, puis j'ai trouvé ce studio à côté de ton grand-père. Voilà, tu sais tout.
Merci, Anne. Est-ce qu'on pourrait se revoir ?
Pourquoi pas ? Tu as un numéro de portable ?
Je vais te le donner. Mais fais attention à ce que tu diras, je suis à peu près sûre d'être sur écoute.
Alors, ce qu'on va faire, c'est se donner rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit.
D'accord, et on utilise le téléphone qu'en cas d'empêchement.
J'espère que je vais pouvoir t'être vraiment utile, mais il faut que je réfléchisse comment.
Réfléchis bien, à la semaine prochaine.
Merci pour le thé, garde le moral.
Ils se quittent sur le trottoir en se faisant la bise. Toute la soirée, Anne réfléchit à ce qu'elle pourrait faire pour innocenter Jean-Baptiste.
Comme il n'a pas d'alibi,
La seule possibilité pour le sauver, c'est de trouver l'assassin ou, au moins, d'indiquer une nouvelle piste à la police. Comment faire ? Interroger Madame Claudie ? La police l'a sûrement fait et sans succès, puisqu'elle s'intéresse toujours à Jean-Baptiste. Si seulement je pouvais visiter l'appartement du pauvre Émile Perrier, je pourrais chercher des indices. Dans les romans policiers, les assassins laissent toujours des indices. Mais il y a des scellés sur la porte. Les fracturés ne feraient que compliquer les affaires de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je peux faire ? Interroger les autres habitants de l'immeuble ? Personne n'a rien vu, rien entendu. Et puis, à quel titre je les interrogerai ? Il faut pourtant que je trouve une petite piste. Même si cela ne mène à rien, il faut que je puisse dire à Jean-Baptiste que j'ai fait quelque chose, que j'ai trouvé au moins un élément nouveau. Et si cet élément est susceptible de modifier l'orientation de l'enquête, ce serait merveilleux. Ce qu'il me faut, c'est l'idée de départ. Pourtant, j'ai beau chercher, je ne trouve rien. J'ai l'impression d'être comme dans une prison. Les murs sont lisses, la fenêtre grillagée, le plafond cimenté, la porte blindée. Pourtant, je suis sûre qu'il y a une solution pour en sortir, à moi de la trouver. Mais ça ne vient pas. C'est terrible, je sèche lamentablement. Anne finit par aller se coucher et s'endormir vers minuit, sans avoir eu l'ombre du commencement d'une idée. Mercredi 18 octobre. En début d'après-midi, Anne rentre du travail avec un mauvais pressentiment qui lui serre la poitrine. Elle a beau réfléchir tout en marchant, elle n'arrive pas à déterminer la cause de son malaise. Elle passe devant la loge sans apercevoir Madame Claudie, monte les escaliers jusqu'au cinquième. Surprise, il y a deux hommes qui semblent l'attendre. Ils ont l'air tranquilles et souriants. « Bonjour, Mademoiselle Anne Renaud. » « Oui, bonjour. » « Inspecteur Patrice Leroux, police judiciaire. Serait-il possible d'avoir un petit entretien avec vous ?» Anne sent une bouffée de chaleur l'envahir. La peur au ventre, elle s'approche de sa porte pour l'ouvrir. « Que me veulent-ils ? Vont-ils me faire parler ? Veulent-ils que je dénonce Jean-Baptiste ?» Elle tourne la clé, ouvre la porte et jette un œil dans son appartement. La vision de son univers familier si tranquille la calme d'un coup. « Je ne risque rien. Je n'ai rien fait de mal. Et puis, ils ne me feront pas dire ce que je ne veux pas dire. » Elle se retourne. « Entrez, venez vous asseoir. » Il s'assoit autour de la table. Il y a juste trois chaises. L'inspecteur Leroux doit avoir un peu moins de 40 ans. Assez grand, dégarni, sûr de lui dans un costume clair impeccable, il a l'air d'un jeune cadre dynamique, pétri d'ambition. Son collègue, qui ne s'est pas présenté, est plus jeune, mettons 25 ans. Il est en tenue de sport et observe l'appartement dans tous ses recoins. Il a tout du stagiaire. L'inspecteur Leroux prend la parole. « Nous enquêtons sur le meurtre d'Émile Perrier, votre voisin de palier. Vous êtes au courant ?»«
Bien sûr. »
« Avez-vous vu ou entendu quelque chose le soir du crime, dimanche 7 octobre vers 18h ?»«
Je n'ai rien pu entendre ou voir puisque j'étais dans le train. Je revenais de chez mes parents à Morlaix. Je n'ai dû arriver ici que vers 21h. J'aurais dû être là plus tôt, mais le train avait une heure de retard. »
« Vous pouvez prouver ce que vous dites ?»«
Vous ne me croyez pas ?»«
Mademoiselle, si dans la police on croyait tout ce qu'on nous raconte, on n'arrêterait pas beaucoup de criminels. »
Anne réfléchit.
« Une preuve ? Il y aurait bien mon billet, seulement je l'ai jeté en arrivant. Mais oui, je l'ai jeté, mais pas dans la poubelle, dans la corbeille à papier. Il y est sans doute toujours. »
Anne se lève, fouille sa corbeille, ne trouve rien. L'inspecteur lui dit « Apportez-moi cette corbeille. » Dès qu'il l'a en main, il en renverse le contenu sur la table. Anne trouve le procédé peu délicat et très indiscret. Elle pouvait avoir mis dans cette corbeille des papiers qui ne regardent pas la police. Elle comprend bientôt que la police ne cherche pas à être délicate, quant à être discrète... Le policier brasse les papiers répandus sur la table, jetant un coup d'œil sur l'un ou sur l'autre. Tout à coup, Anne repère son billet de train.
Le voici. »
L'inspecteur le prend et l'observe longuement, comme s'il voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un faux, puis il le passe à son collègue, qui imite son chef.
« Évidemment, ce n'est pas écrit dessus que le train était en retard, » dit Anne, « mais vous n'aurez qu'à vérifier en téléphonant à la gare Saint-Lazare. »
« Ne vous inquiétez pas, nous vérifierons. Vous n'avez jamais rien remarqué de surprenant à propos d'Émile Perrier, des cris, des visites à des heures indues, des absences prolongées, que sais-je, des agissements qui auraient pu vous surprendre et vous faire dire « Tiens, cela ne correspond pas au personnage. »
« Non, ça ne me dit rien. Émile Perrier était très discret et je n'ai jamais rien surpris de sa vie privée. »
« Que savez-vous de son petit-fils, Jean-Baptiste, qui venait le voir de temps en temps ?»«
Pas grand-chose. Nous avons dû nous croiser 2 ou 3 fois dans l'escalier, c'est tout. »
Pourtant, le mardi suivant le crime, nous sommes venus avec Jean-Baptiste Perrier visiter l'appartement de son grand-père. Vous vous êtes directement adressé à lui comme une vieille connaissance.
Je voulais lui présenter mes condoléances et comme il avait un air profondément abattu, j'ai voulu le réconforter par quelques mots.
Et hier soir, au Lutèce, vous vous êtes croisé par hasard ou c'était pour le réconforter ?
Anne se sent rougir. Jean-Baptiste lui avait bien dit qu'il était sûrement suivi par la police, mais elle ne pensait pas qu'il pourrait remonter si vite jusqu'à elle.
« Je ne sais pas si vous allez me croire, mais c'était bien pour le réconforter. Nous nous sommes croisés dimanche par hasard à la sortie du métro. Il avait l'air tellement abattu que je lui ai proposé de prendre un temps pour parler. Il ne pouvait pas sur le moment, nous avons pris rendez-vous pour hier soir au Lutèce. Il souffre beaucoup de la disparition de son grand-père qu'il aimait beaucoup et c'est pour lui une véritable torture d'entendre insinuer que c'est lui qui l'aurait tué. »
« Mademoiselle, vous savez que vous devez dire à la police non seulement la vérité, mais encore toute la vérité. Alors répondez-moi franchement, ce n'est pas la première fois que vous sortiez ensemble avec Jean-Baptiste ?»«
Sortir est un grand mot. Nous avons bu un verre ensemble dans un café. Mais je vous assure que je ne le connaissais pas plus que ça. »«
Bien, vous affirmez n'être jamais sorti avec Jean-Baptiste Perrier. Et il n'a jamais été votre amant non plus ?»
« Mais non !» affirme Anne, stupéfaite par la question si directe.
L'inspecteur Leroux se lève, immédiatement imité par son jeune stagiaire. Il tend une carte de visite à Anne.
« Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, même un détail, ou s'il arrive quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à m'appeler. Dans la journée, il y a toujours quelqu'un qui répond. La nuit, laissez un message sur le répondeur. »
Les deux policiers saluent sèchement et sortent. Anne est toute retournée par cet interrogatoire qui n'avait rien d'amical. Entre l'inspecteur qui l'a pressé de questions personnelles et l'autre, le stagiaire sportif, qui, sans bouger de sa chaise, a passé au peigne fin tout son appartement, elle s'est sentie fouillée, déshabillée, examinée dans les moindres détails. C'est une expérience qu'elle n'est pas prête à oublier et qu'elle ne souhaite à personne.
« Je comprends Jean-Baptiste. S'il subit ça tous les jours, il y a de quoi lui démolir complètement le moral et le reste. J'espère qu'il n'en est pas à songer au suicide. »
Anne passe sa soirée à revivre l'interrogatoire. Elle ne peut s'en dépêtrer. Impossible de penser à autre chose. Elle dort très mal. Son sommeil est peuplé de cauchemars où elle est interrogée par des policiers sadiques.
Jeudi 19 octobre.
Le lendemain, elle est comme un zombie. Sa tante s'en aperçoit tout de suite et elle doit lui raconter la visite de la police. Du coup, elle la libère un peu plus tôt en lui recommandant de bien se reposer et de profiter du jour de fermeture le lendemain pour se changer les idées.
Vendredi 20 octobre. Le soir, Anne va mieux. Elle est allée courir, elle a été voir un bon film au cinéma. Elle a passé toute la journée à traîner dans les grands magasins. Elle commence à pouvoir penser à autre chose. Du coup, le problème de Jean-Baptiste lui revient. Elle doit trouver quelque chose.